Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Nadir Amaoui. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau, bonjour.
Bonjour Christophe.
80 mises en scène au compteur, vous combinez création théâtrale et pièces classiques, vous êtes venu ici même pour parler de Panique en coulisses, que vous montiez au Théâtre des Variétés, et puis quelques mois plus tard, aujourd'hui donc, vous allez nous parler d'une nouvelle pièce, Un atelier pour deux, que vous jouez avec Véronique Jeannot et que vous mettez en scène aussi. C'est une comédie très joliment écrite par Laurence Gilles, qui fait là un retour qu'elle n'avait pas créé pour le théâtre depuis plusieurs années, vous la connaissez bien. Vous avez mis en scène Un Suédois ou rien avec Michel Roux au Théâtre Fontaine en 89, puis Mademoiselle Plume avec Annie Cordy, et puis plus tard Max et Charlie, toujours avec Michel Roux. C'était au Théâtre Donou cette fois. Comment avez-vous travaillé avec elle? Parce qu'avec un auteur vivant, le metteur en scène peut tout se permettre et tout retravailler.
Oui, mais si vous regardez, mais vous dites que j'ai monté 80 pièces, j'en ai monté plus. Mais je privilégie les auteurs vivants.
Oui.
Et j'aime qu'il soit à mes côtés, qu'il soit assis dans la salle, à deux rangs derrière moi, et qu'il vérifie que je vais dans le sens de ce qu'ils ont écrit.
Bah, pas de Giraudoux, pas de Claudel sans Barreau,
voilà.
Donc pas d'Assous ou pas de Laurent Gilles sans Moreau.
Voilà, et je trouve que c'est... je sais qu'il y a des metteurs en scène qui préfèrent faire leur travail sans être regardés. Moi, je suis pour la participation parce que je me rends compte que moi, je peux arriver à faire sortir par les comédiens des choses que le texte ne prévoyait pas forcément. Mais je demande toujours l'accord de l'auteur.
Alors, Un atelier pour deux raconte la complicité entre deux artistes, Bernard Verdier, vous, et Sabine, Véronique Jeannot, qui, comme le titre l'indique, partagent un même atelier depuis 22 ans. C'est une complicité sans ambiguïté. Bertrand aime les garçons et Sabine a sa vie. C'est un peu deux collègues de bureau, finalement, une fraternité heureuse.
C'est exactement.
Voilà. Depuis 22 ans.
Depuis 22 ans, on se chamaille, mais on se chamaille comme tous les couples, mais avec cette grande distinction, c'est qu'il n'y a pas de sexe, puisque je suis homo et elle est hétérosexuelle.
Alors, ils n'ont pas le même répertoire, ils sculptent du figuratif et elle de l'abstrait, pas de concurrence donc, unité de lieu, de temps, d'action, c'est classique et ça permet aux personnages d'évoluer par eux-mêmes et non pas par des événements. Or, pour qu'il y ait théâtre, il va falloir qu'il rentre en conflit. Et le conflit, c'est Guillaume. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, Guillaume est un garçon...
C'est Emmanuel Gutiérrez. Hein.
Oui, Emmanuel, donc, il est... C'est le parfait, le gendre idéal. Mm. C'est-à-dire qu'il est beau mec.
Il est plus jeune qu'elle.
Plus jeune qu'elle. Il a un métier sérieux, puisqu'il travaille dans les métaux. Il est ingénieur. Donc, tout ça, il est propre sur lui. Et puis, bon, elle tombe amoureuse de ce garçon. Et elle décide de partir, et évidemment... moi qui, depuis 22 ans, vis avec elle, je le prends très mal.
Et ça devient un combat de coq.
Voilà.
Alors, elle lui est indispensable, c'est l'amour sans le lit, un homme qui s'investit dans la vie d'une femme.
C'est ça, oui. D'ailleurs, je trouve que là, Laurence Gilles, elle aborde un sujet qui est très intéressant, même au-delà de la pièce,
oui.
Qui est ce problème du sexe. Est-ce qu'on peut avoir des relations amoureuses, profondes, essentiel, sans avoir le relais du sexe.
Alors, elle lui est indispensable. Je l'ai dit, il y a un joli dialogue. Elle demande « Tu voudrais que je reste ?» Il répond « Non, je ne voudrais pas que tu partes. »
Oui, c'est ça, oui. Ben oui, il est malin comme un singe. Il faut dire que le personnage que j'interprète est vraiment... Il est drôle parce qu'il est touchant.
Oui.
Il est vrai. Et c'est un rôle qui est très agréable à défendre. Parce que les appuis de jeu ne sont pas des conventions. Je fais vraiment appel, quand je joue cette pièce, je fais vraiment appel à des choses qui me touchent profondément, même sur la famille, sur le temps, sur...
On va en parler.
Oui.
Nadir Amaoui, vous avez vu la pièce?
Oui, j'ai vu la pièce la semaine dernière. Et
c'est au Théâtre de Passy, hein, il faut le rappeler.
Ah oui, soyons précis. Et donc déjà, quand j'y suis allé, la salle était pleine, la salle était très réactive et j'ai été vraiment touché. J'ai beaucoup ri, mais j'ai été touché par cette histoire. On est touché par votre personnage, Jean-Luc, et tout ce qu'il est prêt à faire pour retenir. On peut dire celle qu'il aime, mais il ne l'aime pas comme on peut vraiment parler d'amour. On a parlé d'amour à de multiples reprises au théâtre. Et il va vraiment utiliser tous les stratagèmes les plus absurdes pour pouvoir la retenir, mais au point qu'elle se mette presque à le détester. Il y a cette scène où elle est chez son nouveau compagnon et un message sur le répondeur va provoquer une véritable catastrophe. J'en dis pas plus, mais oui, on rit beaucoup, mais on est vraiment ému parce que cet homme est prêt à faire pour cette femme, alors que, comme il le dit, il y a de l'amour, mais il n'y a pas l'amour avec un grand A. Et la distribution, elle est super. Vous êtes génial. Le duo que vous formez avec Véronique Jeannot est excellent. Et Emmanuel Gutiérrez est très drôle aussi. Mais il est très propre sur lui. On se dit, mais est-ce que votre personnage va se prendre un moment un pain dans la gueule? Jamais. C'est les mots qui donnent plus de coups que les gestes. Et c'est ça qui est très intelligent dans l'écriture de Laurent Gilles.
Alors, ce n'est pas de la jalousie épidermique. Il y a un enjeu qui est de taille. Bertrand dit, maintenant qu'on va se séparer, on va commencer à vieillir. C'est l'urgence.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est là à un moment de sa vie. Elle a, je sais pas, une cinquantaine d'années dans la pièce. Et elle dit, moi je lui dis qu'il y a une date de péremption dans la vie, surtout pour les femmes. Hein. Et donc, et je lui dis, là tu t'en vas pour moi au mauvais moment.
Mais Jean-Luc Moreau, c'est terrible parce que il y a cette relation existentielle entre vous deux. Les deux personnages, et on sent que le départ de Véronique dans les bras de Guillaume, ça va être du coup la solitude, la vieillesse, l'ennui, et finalement l'hiver,
et puis aussi sans doute, puisque ce sont des sculpteurs l'un et l'autre, ça va être aussi sans doute l'arrêt de sa créativité.
Oui, oui.
Et je pense que la créativité de l'un et de l'autre venait d'une stimulation qu'ils avaient en vivant ensemble, en parlant, sans avoir le même répertoire, mais en essayant de dialoguer sur qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on a un bout de terre ou un morceau d'aluminium devant soi, comment on va créer quelque chose avec. Et donc ça, c'était quand même le lien fondamental de leur histoire. Et donc à partir du moment où elle s'en va, lui effectivement il est détruit.
Oui.
Et puis il devient sec, il devient impuissant.
Oui.
Je peux dire le mot impuissant puisque ce mot de puissance dans leur rapport sexuel n'existe pas.
Oui. Et alors d'une histoire d'amour, c'est la fin d'une histoire de vie finalement.
Oui, oui, parce que
elle a son histoire d'amour et elle pète toute sa vie et elle pète sa vie à lui.
Et elle pète sa vie aussi.
La vie de ce pauvre Bertrand. Il y a une opposition naturelle entre les sculptures atemporelles, éternelles, et les sculpteurs qui sont mortels et qui disparaîtront. Et on
mais
voit ça.
C'est pas... Oui,
mais non,
ça...
mais on le voit sur scène.
Oui, mais
c'est ça qui est très beau aussi.
Ouais, oui, mais ça, c'est quelque chose que la réponse est dans le temps. La réponse n'est pas dans les personnages. Les personnages, ils ont des opinions artistiques et puis ils les émettent. Mais finalement, c'est le temps qui va avoir sa réponse et sa le résultat de leur conflit sera là.
Alors, vous jouez avec l'innocence des enfants. Vous êtes un peu harlequin. C'est un jeu d'équilibriste pour vous?
D'équilibriste, je sais pas, mais là où vous avez raison, c'est que quand vous pensez à Harlequin, c'est que il y a une naïveté dans le personnage dont je me sers quand je joue, et je fais beaucoup de références bizarrement à des souvenirs d'enfants, de tout petit enfant que j'ai. Un moment dans la pièce, elle me fait avaler des cachets parce que j'ai mal au ventre, parce que j'ai mal dormi, tout ça. Et là, je lui fais une scène. Et quand je joue cette scène, eh bien, je me vois comme j'étais quand j'avais 3-4 ans et que ma mère voulait absolument me faire boire un médicament que je refusais. Et il me semble que je retrouve vraiment les codes. Oui, les codes de l'enfance.
Enfant, vous avez eu peur d'être abandonné?
Je l'étais. Oui. Donc, j'ai pas eu à avoir peur, ça s'est fait.
D'accord.
Mais oui, j'ai même beaucoup, beaucoup pleuré. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup pleuré.
Parce que ça. Là, on sent vraiment qu'il il a la crainte de l'abandon. Enfin, c'est un séisme. Il y a un gouffre qui s'ouvre devant lui. Il n'y a plus d'avenir après ça.
Je sais pas. Alors là, je vais être obligé de faire un petit peu le malin. C'est quand
Véronique, bien quand vous faites le malin.
Quand Véronique Jeannot m'a dit on lit cette pièce, on va la jouer. C'est elle qui m'a poussé à la jouer. Moi, je la trouvais bien, je l'ai trouvée assez amusante, la pièce. Mais il n'y a qu'au moment où j'ai commencé à travailler que j'ai prévenu l'auteur, Laurence Gilles, et j'ai prévenu Véronique Jeannot que, attention, on n'était pas dans une comédie.
Non, non.
Et je me souviens que Véronique était très, mais vraiment choquée. Elle est rentrée chez elle perturbée. Elle m'en a parlé. Elle me dit : « Tu crois ? » Je dis : « Non. Si on veut jouer, si on veut que la pièce ait du sens, faut aller au fond du... »
C'est une dramatique légère.
C'est une dramatique légère.
Voilà. C'est pas une comédie.
Ouais, ouais,
parce qu'on pourrait dire c'est une comédie sentimentale. Tous les opposent, tous les divisent, et à la fin ils se retrouvent. Non, là c'est quand même un gouffre qui s'ouvre un couple qui a 22 ans de cohabitation et qui ont une sexualité différente, qui n'ont jamais été unis comme un couple est uni, et qui en même temps ont une union qui est bien plus forte que ça. Nadir, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, alors moi je l'ai pas vu, je les ai vraiment vus comme un couple, mais on va dire un couple asexué. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vie de couple pendant 22 ans, dire avec les engueulades sur la bouffe,
sur les tâches ménagères tous les 15 jours.
Voilà, ça c'est... Ouais, c'est au-delà de la colocation. C'est au-delà de la colocation. Et je trouve que, et c'est pour moi, votre personnage, c'est pas l'abandon qui lui fait peur, c'est son départ à elle, parce que son compagnon soit pas là, il s'en fout royalement, limite. Mais cette personne avec qui il a vécu ce partage d'atelier, ce partage de vie pendant 22 ans, lui, c'est au-delà de tout. Son départ, c'est au-delà de tout. Donc, il devient très triste, ça c'est très touchant, il devient un enfant. Il devient monstrueux parce que avec le personnage de Guillaume, il est détestable à souhait. Il le provoque à fond. Il a pique au vif parce qu'on a la sensation qu'il veut lui faire avouer des choses à elle pour lui donner envie, pour lui dire mais c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu restes.
Et il sait plus à quoi se rapprocher. Voilà. À quoi se raccrocher, non ?
Et c'est pour ça que c'est intelligemment écrit et brillamment interprété.
Forcément, j'abonde dans votre analyse, mais je crois que la pièce au démarrage n'a pas elle possède intérieurement, elle possède certainement tout ce que vous venez de dire, mais quand on l'avait lu, c'est pas ce qui apparaissait. Mm-hmm. Ce qui apparaissait bizarrement, c'était la comédie avec quelque chose de à la fois de joyeux à voir ce couple s'engueuler.
Mais c'est le cas, c'est toujours.
Mais je suis vraiment attaché à ce qu'on soit au fond dans la vérité de ce drame pour obtenir un rire, mais un rire qui est d'une autre facture que qu'une.
Alors on n'est plus dans la ronde amoureuse, mais dans la ritournelle d'un amour si tendre qu'il n'est plus grave. La musique de Sylvain Maignac en donne l'expression. Sylvain Maignac au piano qui interprète la musique de scène écrite pour cet atelier pour deux, mise en scène par vous, Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau, on revient sur l'enjeu profond de la pièce, le temps, le vieillissement. Sabine semble la jeunesse, l'éternelle jeunesse, c'est Véronique Jeannot. Et est-ce que leur collaboration, c'est cette collaboration qui fait leur jeunesse finalement ? Ils ne se sont pas vus vieillir.
Je crois que ça c'est pas une propriété de la pièce. Je pense que on se rend compte que quand on cesse précisément d'avoir une activité et un partage, c'est là où on commence à se resserrer sur soi, et c'est là où justement le temps devient un marquage effroyable. Et du reste, je le lui dis dans la pièce, ça, que on va commencer à vieillir à partir du moment où on ne pourra plus se matcher ensemble.
Quoi. Et elle n'y croit pas, et vous lui répondez : « Je n'ai jamais été si sincère, idiote. »
Oui.
Alors on est là entre, on entre dans la gravité comme s'il s'agissait de vie ou de mort. Bertrand joue sur tous les registres, on l'a dit, chantage affectif, réappropriation de l'atelier en faisant venir un coquin, ça va jusqu'à vouloir casser une œuvre, c'est-à-dire à tuer en quelque sorte. Donc il va y avoir, on a entendu la musique de Sylvain Méniac, cette espèce de ritournelle charmante, parce que oui, cette pièce est charmante, mais il y a du lourd par en dessous.
Mais encore une fois, je pense que ce qui touche actuellement le public, quand on le voit au moment des saluts, c'est qu'il y a un temps avant que les gens applaudissent, où il y a un temps de stupéfaction, qui est justement le fond de la pièce qui d'un seul coup vous saute à la gueule, alors que avant on s'est quand même beaucoup amusé.
C'est vrai que la fin, pardon, c'est vrai que la fin, vous êtes tous les deux juste. Les trois derniers mots, les deux dernières phrases que vous échangez, il n'y a plus de musique. Il y a une petite musique au début, ça s'arrête juste avec votre dernière réponse. Et on est très touchés pendant tout le spectacle, en plus de rire. Ça, c'est indiscutable. On rit énormément pendant 1h20, mais la fin, c'est. Je crois que le soir où je suis venu, j'ai entendu beaucoup de oh à la fin, parce que les gens sont vraiment touchés de ce qui se passe à la fin. Ils ressentent vraiment, ou ils ont peut-être même déjà vécu. Ce que ces deux personnages-là ont vécu et ce qu'ils ont raconté pendant 1h20. Et c'est vrai qu'au-delà de la comédie, on est vraiment dans quelque chose de très touchant, très émouvant. C'est un style de comédie qu'on ne voit pas assez, je trouve, au
théâtre. Il est très fin.
Ouais,
il est très fin.
Avec beaucoup de finesse et beaucoup de profondeur.
Laurent Gilles écrit « L'artiste doit capter son époque ». Et elle y arrive parfaitement, parce qu'on l'a compris, on est quand même dans une société plutôt de vieillissement, où le vieillissement interroge, et on voit qu'au théâtre de Passy, il y a plus de cheveux blancs que de cheveux blonds, il faut le dire, parce que le quartier fait ça aussi. Et en même temps, les gens sont absolument ravis, parce qu'on leur parle de quelque chose qui leur parle, c'est-à-dire, si je lâche quelque chose à ma vie aujourd'hui, ou si quelque chose de ma vie me lâche, je pars dans le vieillissement.
Oui,
c'est terrible, non?
Oui, c'est terrible, mais c'est très juste. Et d'ailleurs, là, lorsque...
Jean-Luc Moreau.
Lorsque vous parliez du dernier moment de la pièce, les derniers mots qu'on se dit, ils ne sont pas des mots sur l'amour, ni sur notre relation, c'est des mots sur la construction, qui est de faire une œuvre ensemble, une œuvre artistique, donc une sculpture, et qu'enfin on réunisse nos styles, nos talents, pour arriver à... C'est moi qui lui fais cette proposition, et on se rend compte que précisément, et c'est pour répondre à ce que vous disiez, c'est que l'abandon d'un partage dans un couple, quel qu'il soit, c'est là où on commence à rentrer dans le phénomène de la vieillesse.
Du vieillissement, de la solitude et de la mort.
Oui.
Non mais c'est terrible comment
pour rebondir Christophe, parce que ça ne touche pas que les cheveux blancs du théâtre de Passy quand même.
Parce oui, ça vous a concerné.
Oui, bien sûr, mais ça concerne tous les âges. Je pense que même dans un autre théâtre, ça pourrait être tout aussi beau.
Bien sûr,
il
n'y
a pas que les vieux, il n'y a pas que ceux qui ont des cheveux blancs. Mais j'en ai moi aussi, merci. Oui. Mais il n'y a pas que ceux qui ont des cheveux blancs qui sont touchés par cette histoire. Je pense qu'il y a tous les âges, parce que déjà quand moi je suis venu, il y avait vraiment tous les âges dans la salle. Je crois qu'il y avait même plus jeune que moi, c'est vous dire. Donc il y avait.
Mais ce qui nous touche, moi, ce que j'ai trouvé très très touchant, c'est la grâce et le charme de ce duo. Oui.
Mais là, il y a un moment dans la pièce où je lui parle de ce qu'on a vécu, et en disant on a bouffé du pâté de foie dans la clairière de Rambouillet, on s'est baladé, on a vu des expos, tout ça. Et à un moment, je lui dis, mais où est-ce que je vais trouver maintenant, puisque tu t'en vas, la présence de ta main dans la mienne, de ton bras accroché au mien. Et ça, quand je dis ce texte, je me rends compte que dans la salle, il y a une qualité d'écoute qui fait que les gens sont basculés dans leur propre, et c'est ça aussi la vertu du théâtre et de ce texte, les gens sont basculés dans leur propre histoire et ils y voient les traces et donc sans doute les douleurs et les émotions que ces images de Laurence Gilles créent.
Ah ben ça parle absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans le quotidien. Alors, ce que je disais, unité de temps, de lieu et d'action. Et on est vraiment dans le finalement dans notre quotidien, nous, même si on n'est pas sculpteur, même si complètement concerné.
Oui, oui, le rapport de l'histoire du couple n'est pas lié à la fonction.
Non,
c'est autre chose, c'est le partage.
Et c'est joli ça de la part de Laurent Gilles d'avoir magnifié la relation à deux et la rendre aussi très très fragile au-delà d'une simple question matrimoniale.
Oui.
Ça, c'est intelligent. Hein.
Oui, c'est très intelligent, parce que, et en ce sens-là, la pièce est... moderne ne veut plus rien dire, mais elle est, disons, elle est très actuelle, parce qu'elle nous, elle nous parle d'une thématique qui est très importante.
Très.
Et le nombre de couples qui sont certains mariés, hommes-femmes, qui n'ont pas de sexualité. Il y a même maintenant un courant qui fait que la relation ne doit pas passer par le sexe. Donc la pièce, c'est peut-être un moment, un hasard, mais la pièce parle aussi de ce thème-là. Moi, j'avoue qui m'a vraiment touché, cette problématique de quelle est la relation qu'on peut entretenir avec l'autre sans passer par le sexe. Et est-ce que le sexe n'amenuise pas, en réalité, la nature de nos rapports? Est-ce que en disparaissant petit à petit avec le temps, est-ce que le sexe n'a pas été une illusion?
Là, c'est une vraie question. Il faudrait en parler avec Eric.
Non, mais vous ne pouvez pas connaître, parce que vous n'avez pas de sexualité.
Avec Eric Emmanuel Schmitt, qui pourrait faire une pièce là-dessus. Parce qu'en effet, c'est une vraie question contemporaine aujourd'hui. Oui. Alors, on peut parler de fraternité, mais enfin, ça ne veut plus rien dire, sauf sur les mairies et sur les écoles. Mais c'est une vraie question du couple, et qui ont chacun leur vie, finalement. Mais ce qu'ils vivent, elle avec son Guillaume, et lui avec son coquin, il s'appelle comment, je me souviens plus.
Angelo,
c'est vraiment c'est rien, quoi. Ce sont des miettes de vie, alors que leur histoire à eux, c'est d'abord leur sculpture et ensuite cette cohabitation.
D'abord leur sculpture.
Ouais, ça, c'est très juste. Important.
Ouais, ouais. C'est pour ça que la pièce d'ailleurs finit sur cette réconciliation à travers l'art.
Oui, et puis cet énervement de l'artiste que vous êtes, que vous incarnez, qui fait une maquette et qui voulait faire un énorme format, et finalement lui fait 1,80 m parce qu'il n'y a pas le budget. Et puis finalement,
Ce sont des réalités que rencontrent malheureusement tous les artistes. C'est de ne pas avoir l'écho de ce qu'ils veulent entreprendre.
Et lui, il patine un peu dans sa carrière, à ce moment-là.
Oui, il patine parce qu'il est classique.
Ouais.
C'est pas qu'il refuse la modernité, mais c'est que...
C'est pas son truc.
Ouais. Et il a l'impression d'être têtu dans sa forme d'expression va le faire réussir de toute façon. Ce qui est très
féminin, elle est conceptuelle.
Absolument.
Et ça, c'est très féminin.
Oui.
Et là, elle
me met des vents. Hein.
Oui, oui. Mais Laurent Gilles a très, très bien compris et partagé à la fois la psychologie, dans la sculpture, dans la relation. Enfin, on sent que tout ça est très sexué, mais n'est pas sexiste.
Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai joué deux pièces de Laurent Gilles. À chaque fois, je suis homo.
Ah oui.
Dans Max et Charlie, avec
Michel Roux,
on était en couple, et là je suis à nouveau en homosexuel.
Oui, bah, elle vous voit comme ça.
Ouais, mais personnellement, moi, même si voilà, il le dit ouvertement dans cette pièce qu'il est homosexuel, on sent quand même qu'il y a un profond amour entre eux, et la preuve. Elle est jalouse, elle le dit ouvertement. Je veux pas que ton mec dorme dans mon lit.
Oui.
C'est que il y a personne qui doit y aller à part moi. Donc en fait, je pense que lui, il est très jaloux. Il veut pas qu'elle s'en aille, mais il y a quand même une sorte de vrai amour qui est plus comment dire, qui est un petit peu qui est dit d'une manière un petit peu biaisée.
Une espèce de jalousie.
Voilà, il y a une jalousie qui est dit d'une manière.
Elle ne veut pas
détournée.
Que son espace. Elle ne veut pas que son espace soit envahi par quelqu'un.
Voilà.
Mais ça c'est très féminin.
C'est leur espace. C'est pas le sien. c'est pas son féminin, espace. C'est le leur.
Oui. Moi j'ai très belles histoires là-dessus. Mais enfin bon. Oui. On fera une émission si vous voulez.
Absolument. Mais tu fais ce que tu veux de ta vie, mais tu rentres pas dans mon espace.
Ouais.
Et ça.
Autrement, je risque de le détruire ton espace. Ça j'ai connu. plus.
Oui, c'est ça. Et bah, il faudra demander à Laurent Gilles de décrire la suite de l'histoire, parce qu'elle a très, très bien compris. Et ces personnages qui existent vraiment. Et tous les trois, Véronique Jeannot, vous, naturellement, et puis notre ami Guillaume, qui est joué par Emmanuel Gutiérrez, voilà. Et vous, Jean-Luc Moreau, c'est un trio. Encore une fois, c'est pas flamboyant, c'est délicieux. C'est du sorbet, votre pièce. Et moi, je l'ai goûté comme ça.
Super.
Oui, on en très léger, voilà.
Bon, donc on y va. C'est au théâtre de Passy, c'est rue de Passy. C'est du mardi au samedi à 19h. Alors ça, c'est idéal avec l'heure d'été qui nous arrive ce week-end.
Et les beaux jours qui reviennent.
Et les beaux jours. Donc on ressort à 20h15. Il fait encore beau.
Voilà. Il n'y a plus beaucoup de soleil.
Sans parler de la pièce, disons d'une manière plus générale sur le monde du théâtre. Faut reconnaître que ces horaires-là sont des horaires maintenant qui deviennent attractifs.
Mais oui.
Parce qu'il n'y a plus de resto à 22h maintenant. Vous cherchez un restaurant dans Paris.
On ne peut pas être 35 heures.
Dans cet quartier, il n'y a plus rien.
Merci Nadir Amaoui. Merci Jean-Luc Moreau. On va aller se précipiter voir un atelier pour deux avec Véronique Jeannot et Emmanuel Duterrier sur une musique de Sylvain Méniac dans les belles lumières de Jacques Rouvérolis. On ne se refuse rien. Et c'est du mardi au samedi à 19h au théâtre de Passy, rue de Passy. Merci Camille Meyer, François Dieudonné, Philippe Malpeuch pour la réussite technique de notre entretien. Lundi, nous irons au musée Montmartre pour admirer les œuvres d'Auguste Herbin. J'adore. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Ouvrons nos fenêtres. C'est le printemps. Je vous embrasse.